Chapitre 10 à 36 Les successeurs de Salomon, l'ère des prophètes. Le chapitre 10 marque la seconde division des chroniques, la première comprenant l'histoire de David et de Salomon. Jusqu'à la fin de notre livre, nous avons l'histoire de la royauté de Juda, contrepartie de celle d'Israël traitée dans les livres des rois. Mais avant d'étudier les successeurs de Salomon, il nous faut exposer brièvement ce que leur histoire a de spécial. Nous avons dit que les chroniques présentent le tableau des conseils de Dieu au sujet de la royauté. Ces conseils ont été accomplis en type, mais seulement en type, sous les règnes de David et de Salomon. David, roi souffrant et rejeté, est devenu, dans son fils, le roi de paix, le roi de gloire qui s'assied sur le trône de l'Éternel. Cependant, quoique les chroniques aient soin d'omettre entièrement les fautes de Salomon, il n'était pas le vrai roi des conseils de Dieu. Ces mots « Je lui serai pour père et lui me sera pour fils » de Samuel 7, verset 14, ne pouvaient avoir leur plein accomplissement à son égard. Le décret « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré » psaume 2, verset 7, ne le concernait pas et faisait espérer un plus grand et plus parfait que lui. Mais, pour que ce fils futur pût être la postérité de David, il fallait que la lignée de David fût maintenue jusqu'à son apparition. C'est pourquoi Dieu avait dit à David qu'il lui donnerait une lampe à lui et à ses fils à toujours. Chapitre 21, verset 7. Or, cette lampe, comment allait-elle briller dans la maison royale jusqu'à l'apparition du fils promis? Comment traverserait-elle l'air empoisonné et les ténèbres morales de l'homme sans s'éteindre, rendant ainsi impossible l'apparition du vrai héritier de David? C'est ce que Satan a compris. Qu'il réussit à éteindre la lampe, tous les conseils de Dieu à l'égard du juste dominateur des hommes auraient été réduits à néant. Mais, en dépit de tous les efforts de l'ennemi pour supprimer cette lumière, le fils de David parut dans le monde, remporta la victoire sur Satan et devint pour l'Église le oui et l'amen de toutes les promesses de Dieu. Toutefois, ce n'est pas de ce sujet révélé dans le Nouveau Testament qu'il est question ici. Comme nous l'avons vu, il ne s'agit dans les chroniques que de la royauté terrestre de Christ sur Israël et les nations. Cette royauté fut combattue jusqu'au bout par Satan. Quand le roi que les mages adorent paraît comme petit enfant, l'ennemi cherche à le supprimer par le meurtre des enfants de Bethléem. À la croix, où il pense en finir avec lui, il ne peut empêcher qu'il ne soit déclaré roi des Juifs, à la vue de tous, par l'écriteau de Pilate. Et quand l'ennemi se croit victorieux, Dieu ressuscite son oint et l'établit Seigneur et Christ aux yeux de toute la maison d'Israël. Revenons à notre livre. Si pour des raisons données plus haut, il ne nous montre pas les manœuvres de Satan pendant le règne de Salomon, il en parle d'une manière d'autant plus frappante pendant les règnes subséquents. L'ennemi séduit le roi et son peuple pour les pousser à l'idolâtrie. Il use de violence pour détruire et anéantir la race royale. Mais Dieu veille pour atteindre la conscience du peuple, et quand tout semble perdu, le souffle de l'esprit vient ranimer le lumignon qui s'éteint. Des cas surgissent où un Joram, un Akasia, un Akaz sont assez réprouvés pour être livrés au feu consumant, car Dieu lui-même, toujours attentif aux bonnes choses, ne peut plus reconnaître aucun bien chez ses rois, et tout, absolument tout, doit tomber sous le jugement. La lampe est éteinte, c'est le règne des ténèbres les plus profondes. Satan triomphe, mais seulement en apparence. Dieu conserve un faible rejeton de ce tronc réprouvé dans la personne d'Akasia. Oui, mais ce seul rejeton épargné dans le meurtre de la race royale se trouve être lui-même un sarment sec destiné au feu. Nouvel anéantissement de toute la race. Est-elle bien détruite maintenant? Non. La voici qui renaît en Joas, et l'Esprit de Dieu peut de nouveau trouver chez lui de bonnes choses, De cette manière, la succession royale se continue, en sorte que la lignée de David n'est pas anéantie par ses réprouvés. Voir Matthieu 1. Aussi, la lutte entreprise contre Dieu par Satan tourne à la confusion de ce dernier. Quel est donc le secret de sa défaite? Une chose l'explique, la seule à laquelle Satan, qui en sait tant, n'a jamais pensé, ni pu penser. Le secret qu'il ignore, c'est la grâce. Car son intelligence si subtile est complètement inaccessible à l'amour. Toute cette seconde partie des chroniques pourrait donc être intitulée « L'histoire de la grâce en rapport avec la royauté de Juda ». Quand la grâce peut ranimer la flamme pour entretenir la lumière du témoignage, elle ne manque pas de le faire. Quand, vis-à-vis de l'endurcissement volontaire des rois, elle ne peut plus rien produire, elle leur suscite encore une descendance dont elle puisse attendre quelques fruits. C'est donc à la lutte acharnée de Satan contre les conseils de Dieu que nous allons assister en même temps qu'au triomphe de la grâce. Toute cette période est résumée dans la parole du prophète « Qui est un Dieu comme toi, pardonnant l'iniquité et passant par-dessus la transgression du reste de son héritage ? Il ne gardera pas à perpétuité sa colère, parce qu'il prend son plaisir en la bonté. Il aura encore une fois compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Et tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. » Michée 7, versets 18 et 19. Il arrive cependant un temps où la ruine paraît irrémédiable, où, dans la lutte, le triomphe de Satan semble assuré. La royauté sombre sous les flots du jugement, quand même, comme nous l'avons vu dans les généalogies, voir 1 Chronique 3, versets 9 et 24, de faibles représentants de la race royale, sans titre, sans prérogative, sans autorité, et sans royaume, subsistent encore. Après eux, la race, toujours plus obscure et abaissée, se perpétue dans le silence jusqu'à un pauvre charpentier qui devient le père putatif de la semence de la femme. Le Christ est né. Rien donc n'a pu annuler les conseils de Dieu, ni l'effort de Satan, ni l'infidélité des rois. Sans doute ces conseils ont été cachés pour un temps jusqu'à la venue du Messie, dépeint par anticipation dans la personne de Salomon. Le trône était resté vide, mais vide seulement en apparence, jusqu'à ce que le roi de justice et de paix pût venir s'y asseoir. Le voici. Ce petit enfant, humilié, rejeté à son apparition, possède tous les titres à la royauté. Mais voyez-le, écoutez-le. Les foules le cherchent pour le faire roi. Il se cache et se dérobe. Il défend à ses disciples de parler de son royaume. C'est qu'avant de le recevoir, il a une autre mission, un autre service à accomplir. Il se déclare roi devant Pilate, et cela le conduit au supplice, mais il va prendre un royaume qui n'est pas de ce monde. Il abandonne entre les mains de ses ennemis tous ses droits sans en garder aucun. Il est muet, comme la brebis devant ceux qui la tondent. C'est qu'il lui faut remplir une toute autre tâche, l'œuvre immense de la rédemption qui le conduit à la croix. Cette œuvre accomplie, il reçoit en résurrection la sphère céleste du royaume. Comme jadis Salomon, il est assis sur le trône de son père en attendant de l'être sur son propre trône. Ce moment viendra pour lui, le vrai roi d'Israël et des nations, mais il n'est pas encore arrivé. Lui n'attend plus qu'un signe de son père pour prendre en main les rênes du gouvernement terrestre. Dès le moment de son apparition comme petit enfant, plus n'est besoin d'une succession royale. Nous disons succession parce que nous n'oublions pas que le prince ou vice-roi d'Ézéchiel fait partie de la semence royale, voir Ézéchiel 46, versets 1 à 18 et 48, versets 21. Le roi existe. Le roi vit. Le roi trône aujourd'hui dans le ciel. Il sera proclamé bientôt seigneur de toute la terre et postérité de David pour son peuple d'Israël. Mais jusqu'à son apparition, pour maintenir sa lignée, il n'y a, nous l'avons dit, qu'un seul moyen, la grâce. De là cette particularité remarquable que, dans les chroniques, tout ce qui peut être, chez les plus mauvais rois, le fruit de la grâce, est soigneusement enregistré. Partout où Dieu peut le faire, il le signale. Aussi ce récit n'est pas, comme dans le livre des rois, le tableau de la royauté responsable, mais celui de l'action de la grâce dans ses hommes. L'Esprit de Dieu travaille même dans le cœur affreusement endurci d'un Manassé pour prolonger un peu la lignée royale dans un rejeton, Josias, qui gouverne selon le cœur de Dieu. Malgré ces réveils momentanés, la ruine s'accentue de plus en plus. C'est à peine si les chroniques, en cela différentes des rois et du prophète Jérémie, daignent enregistrer en quelques versets les successeurs de Josias, ayant hâte d'arriver à la fin, au retour de la captivité, preuve éclatante de la grâce de Dieu envers ce peuple. Pour accomplir l'œuvre de la grâce qui amènera enfin le triomphe de la royauté dans la personne de Christ, il fallait que la dispensation de la loi, sans être abolie, subît une importante modification. Sous les rois, le régime de la loi subsistait, car il ne trouve sa fin qu'en Christ. Le régime de la grâce n'était pas encore inauguré, car il trouve sa pleine expression à la croix. Mais dans la période des rois, Dieu intervient d'une manière toute nouvelle pour manifester ses voies de grâce sous le régime de la loi, et cela par l'apparition des prophètes. Non que cette apparition soit restreinte au régime inauguré par les rois, car elle se manifeste dès le moment où l'histoire d'Israël est caractérisée par la ruine. Aussi, nous voyons les premiers prophètes, pour ne pas mentionner Hénoch, puis Moïse, apparaître lorsque la ruine est complète en Israël. Au livre des Juges, quand le peuple tout entier a failli, nous voyons surgir la prophétesse Déborah, Juges 4, verset 4, et plus tard, un prophète, Juges 6, verset 7 à 10. Plus tard, la sacrificature étant ruinée, Samuel est suscité comme prophète. 1 Samuel 3, verset 20. Au livre des rois et des chroniques, enfin, lors de la faillite de la royauté, les prophètes paraissent et se multiplient à ne pouvoir les compter. Note. Liste des prophètes cités dans le second livre des chroniques. Nathan, chapitre 9. Akija, le Silonite, chapitre 9 et 10. Iddo, ou Jedo, le voyant, chapitre 9 et 12 et 13, Shemaïa, homme de Dieu, chapitre 11 et 12, Azaria, fils d'Oded, chapitre 15, Oded, chapitre 15, Anani, le voyant, chapitre 16, Miché, fils de Jimla, chapitre 18, Jéhu, fils de Anani, le voyant, chapitre 19 et 20, Jacaziel, fils de Zacharie, chapitre 20, Eliezer, fils de Dodava, chapitre 20, Élie, le prophète, chapitre 21. Plusieurs prophètes et Zacharie, fils de Jéhoïada, chapitre 24. Un homme de Dieu, chapitre 25. Un prophète, chapitre 25. Zacharie le voyant, chapitre 26. Ésaïe, fils d'Amots, chapitre 26 et 32. Oded, chapitre 28. Miché, le Morachite, Jérémie 26. Des prophètes, chapitre 33. Et deux rois, 21. Hulda, la prophétesse, chapitre 34, Jérémie, chapitre 35 et 36, des messagers et des prophètes, chapitre 36, voir Uri, fils de Shemaïa, Jérémie 26. Fin de la note. Ils inaugurent une nouvelle dispensation de Dieu, devenue nécessaire quand tout est ruiné, quand la loi s'est montrée impuissante à régler et à contenir la nature corrompue de l'homme, quand, même mélangée de miséricorde, lorsque les tables de la loi furent données une seconde fois à Moïse, elle n'a aucunement amélioré cet état. C'est alors que Dieu envoie ses prophètes. En certaines occasions, il n'annonce que le jugement imminent, dernier effort de la miséricorde divine pour sauver le peuple comme à travers le feu. En d'autres occasions, beaucoup plus nombreuses, ils sont envoyés pour exhorter, ramener, consoler, fortifier, appelé à la repentance, tout en faisant ressortir les conséquences judiciaires sur ceux qui n'écoutent pas. Le prophète a donc à la fois un ministère de grâce et de jugement, de grâce parce que l'Éternel est un Dieu de bonté, de jugement parce que le peuple est placé sous la loi et que la prophétie n'abolit pas la loi. Elle s'appuie au contraire sur la loi, tout en proclamant à haute voix qu'au moindre retour vers Dieu, le pécheur trouvera miséricorde. Elle est sans doute un adoucissement de la loi. Dieu concédant à l'homme pécheur tout ce qui est compatible avec sa sainteté, mais, d'autre part, ne pouvant renier son caractère en face de la responsabilité de l'homme. La prophétie ne supprime pas un iota de la loi, mais accentue, plus que Dieu ne l'avait fait jusque-là, le grand fait qu'il se plaît à la miséricorde et au pardon et tient compte du moindre symptôme de retour vers lui. Quand les prophètes, a dit un frère, entrent sur la scène, la grâce commence à reluire de nouveau. Le seul fait de leur témoignage était déjà une grâce envers un peuple qui avait violé la loi. S'ils venaient chercher du fruit et ne trouvaient que du verjus, ils annonçaient néanmoins aux élus les promesses de Dieu en grâce, la grâce comme réparation des choses que le peuple avait gâtées. L'évangile survenu après cela parle d'une nouvelle création, d'une vie nouvelle et non d'une réparation. En Ésaïe 58, versets 13 et 14, on voit le caractère différent de la loi et de la prophétie dans la manière dont elles présentent le sabbat. « Si tu appelles, dit le prophète, le sabbat tes délices et honorable le saint jour de l'Éternel, si tu l'honores en t'abstenant de suivre tes propres chemins, de chercher ton plaisir et de dire des paroles vaines, alors tu trouveras tes délices en l'Éternel. » Un caractère particulier de Dieu est donc exprimé par les prophètes. Ce n'est pas la loi donnée au Sinaï, c'est encore moins la grâce révélée dans l'Évangile. C'est un Dieu qui, tout en montrant son indignation contre le péché, ne prend pas plaisir au jugement, et dont le vrai caractère, la grâce, triomphera toujours à la fin. Un Dieu qui dit « Consolez, consolez mon peuple !» quand il a reçu le double pour tous ses péchés. Sous la loi pure, le jugement triomphe de l'iniquité. Sous la prophétie, la grâce et la miséricorde triomphent quand le jugement a été exécuté. Sous l'Évangile, enfin, la grâce s'élève par-dessus le jugement parce que l'amour et la justice se sont entrebaisés à la croix. Le jugement exécuté sur Christ a fait triompher la grâce. Le jugement était contre lui au lieu d'être contre nous. La grâce tout entière, l'amour, Dieu lui-même, a été pour nous. Tout le rôle de la prophétie est exprimé dans le prophète Michée cité plus haut, chapitre 7, versets 18 à 19. Il est impossible, et c'est ce qu'annonce ici le prophète, que Dieu se désavoue lui-même, soit quant à ses jugements, soit quant à ses promesses de grâce. Tel est le rôle des prophètes dans les chroniques. S'ils apparaissent d'abord isolément, comme dans les juges, puis sous le règne de Saül, de David et de Salomon, ils se multiplient ensuite à mesure que l'iniquité grandit dans le royaume. C'est ce qu'exprime le Seigneur en Matthieu 21, versets 34 à 36. Après les quelques esclaves du début, dont les vignerons battent l'un, tuent l'autre et lapident le troisième, le maître de maison envoie d'autres esclaves en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons leur font de même. Enfin, il leur envoie son fils. Chapitre 10 à 12. Roboam. Nous arrivons ici à la ligne de démarcation tracée dans les chroniques entre le règne de David et de Salomon et celui de leurs successeurs. Le sujet que nous allons aborder va nous présenter, comme nous l'avons dit plus haut, non plus les conseils de Dieu quant à la royauté, mais l'œuvre de la grâce pour la maintenir jusqu'à l'apparition du Messie dans lequel ces conseils seront réalisés. Nous avons donc ici l'histoire ordinairement affligeante, parfois consolante, des rois de Juda, car ceux d'Israël ne sont plus mentionnés que dans leur rapport avec Juda et Jérusalem. C'est exactement la contrepartie du récit des rois. Fait remarquable, et qui confirme tout ce que nous avons dit spécialement au sujet de David et de Salomon, type de la royauté selon les conseils de Dieu, la parole nommait pas seulement ici les péchés de Salomon à la fin de sa carrière, mais jusqu'à leurs conséquences, comme elle l'a déjà fait pour les châtiments qui atteignirent David au sujet du riz dans le premier livre des Chroniques, preuve évidente que David et Salomon occupent dans ces livres une place à part. L'avènement de Jéroboam et la division du royaume sont présentés ici comme la conséquence du péché de Roboam et non de celui de son père. De même, la prophétie d'Akija à Jéroboam s'accomplit, non pas parce que Salomon a péché, mais parce que Roboam n'écouta pas le peuple. Chapitre 10, verset 15. Et cependant, on voit dans ce même passage, qui s'en réfère à 1 roi 11, versets 31 à 33, que Dieu n'a pas le dessein de cacher les fautes de Salomon, mais que le but de l'Esprit-Saint est de les omettre. L'établissement de Jéroboam, fils de Nébat, sur le trône d'Israël, est aussi passé sous silence, ce qui importe, l'histoire étant uniquement celle de Juda et non pas celle d'Israël. Voir 1 roi 12, verset 20. Pour la même raison, notre récit omet l'établissement de l'idolâtrie par Jéroboam, l'histoire du vieux prophète, la maladie d'Abija, fils de Jéroboam, et à cette occasion, la prophétie d'Akija. 1 roi 12, verset 25 à 14, verset 20. L'histoire de Roboam comprend les chapitres 10 à 12, alors que les rois la résument en quelques versets. 1 roi 14, versets 21 à 31. Mais, détail caractéristique, ce dernier passage fait le plus sombre tableau de l'état du peuple, tandis que nos chapitres enregistrent le bien que la grâce produit dans le cœur du roi, quoi qu'il soit dit de lui. Chapitre 12, verset 14. Mais il fit le mal, car il n'appliqua pas son cœur à rechercher l'Éternel.